méditation. Bon, il est vrai que je viens assez souvent à Paris, mais toujours dans des temps extrêmement serrés, puisque je vis à Toulouse, ce qui n'est pas toujours confortable par rapport au fait que je suis porte-parole de... Mais bon, donc je suis ce soir de partager cette soirée, et c'est vrai que, en fait, en filigrane de mon intervention, il y a les raisons pour lesquelles, finalement, ATTAC, dont l'histoire maintenant c'est 15 ans, s'est transformée dans son histoire, comme tous les mouvements vivants, hein, comme une société vivante, ATTAC s'est transformée et ATTAC s'est emparée de la question écologique. Ce n'est pas du tout, elle ne s'est pas emparée de la question écologique comme un supplément d'âme, hein, comme un adjectif qu'on mettrait un petit peu partout, qu'on accolerait un petit peu partout parce qu'il serait de bon ton de, désormais de la coller, mais parce que réellement nous pensons que la prise en compte de l'écologie est une nécessité pour comprendre le monde dans lequel nous sommes et donc se donner les moyens de le transformer. Comprendre d'abord avant de transformer, parce que le problème que nous avons aujourd'hui face au désarroi de l'humanité, ce n'est pas seulement de donner des réponses, c'est de poser les bonnes questions. Parce que si nous ne posons pas les bonnes questions, nous sommes certains que nous ne donnerons pas les bonnes réponses. Donc nous sommes parfois très pressés de donner des réponses. Nous avons besoin de réponses, bien sûr, du fait de la détresse à très court terme, du fait des urgences, nous avons besoin de réponses. Mais cette urgence des réponses ne doit pas nous éloigner du chemin de recherche des bonnes questions à poser, des questions justes, hein, pour éviter d'emprunter des chemins qui seraient, encore une fois, des chemins qui nous conduiraient à l'échec. Donc je disais aussi que l'humanité concrète, pas l'humanité comme principe abstrait, je peux dire le peuple de la Terre aujourd'hui, est confronté à des questions inédites que aucune génération avant nous n'a eu à se poser. Et ces questions sont des questions politiques et des questions éthiques. Non seulement nous avons à répondre à l'antique question de comment voulons-nous vivre, qui est la question politique fondamentale, comment nous organisons-nous pour vivre, ça c'est la question politique, telle qu'elle avait été définie dans la philosophie grecque, etc. Non seulement nous devons répondre à ça, comment nous voulons vivre, mais comment voulons-nous également préserver les possibilités d'une vie humaine sur la Terre. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a une menace pour l'avenir de l'humanité, non pas l'avenir de la planète. La planète continuera son cours, hein, son histoire au très long cours. En revanche, hein, nous risquons un jour de ne plus avoir une vie possible, réellement humaine, sur cette planète. Et donc, question double question politique, comment voulons-nous vivre et comment assurer le maintien d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Et donc, nous sommes aujourd'hui confrontés à des formes inédites de responsabilité. Bon, je ne vais pas développer, on peut en parler si vous voulez dans le débat, des nouvelles formes de responsabilité qu'on désigne aujourd'hui par le fait que nous avons changé d'air géologique. C'est Christophe Bonneuil, hein, qui a beaucoup développé ceci, qui fait partie de notre commission écologie société d'ATTAC, qui vient d'écrire un livre magnifique, hein, qui s'appelle « L'événement anthropocène », qui signifie que désormais l'humanité est devenue une force géologique, dans la mesure où l'humanité est capable, par ses activités et par le type d'organisation qu'elle a choisi, elle est capable de transformer l'histoire de la Terre, de faire bouger l'histoire de la Terre, en particulier la conscience de cette nouvelle ère qu'on appelle l'anthropocène, pour désigner que ce sont bien les humains qui désormais agissent sur l'histoire géologique de la Terre. Eh bien, c'est le changement climatique qui nous a fait prendre conscience de cette réalité-là, puisque nous ne subissons plus le climat, nous faisons le climat. Nous le subissons aussi, bien sûr, mais en même temps, nous sommes acteurs de ce climat. Alors que jusqu'ici, les générations qui nous ont précédés, les peuples qui nous ont précédés, ne subissaient le climat et ne le transformaient pas. Aujourd'hui, nous le savons, comme dit le GIEC, avec une probabilité de 95%, que le changement climatique est d'origine anthropique et donc que l'humanité, en tant que telle, est devenue une force géologique. Et donc nous sommes confrontés aujourd'hui, nous savons cela. Les rapports scientifiques s'accumulent. Nous savons, et donc ce savoir nous donne une responsabilité tout à fait particulière pour définir sans doute une nouvelle politique, une nouvelle éthique qui ne concerne pas seulement, plus seulement, les humains entre eux, une éthique qui règle la vie des humains entre eux, mais également nous avons besoin d'une politique et d'une éthique qui règle le rapport des humains avec la Terre, avec la nature. Évidemment, c'est une posture extrêmement difficile, ambitieuse et difficile, qui est pavée d'immenses difficultés. Immenses difficultés parce que, nous le savons, nous avons pris énormément de retard par rapport à ce que nous aurions dû faire, et alors que les alertes, nous les avons depuis maintenant plus de 40 ans. En effet, les premières alertes, véritablement indiscutables, les premières alertes mondiales, ce sont les années 1970, dans lesquelles, véritablement, il y a déjà une prise de conscience mondiale du dérèglement des écosystèmes. Il y a des appels mondiaux, des alertes. Je pense en particulier au Club de Rome, avec les critiques qu'on peut faire à ce rapport. Et le Club de Rome qui alertait sur l'épuisement des ressources naturelles et qui prônait, vous le savez, la décélération de la croissance. On avait traduit leur rapport en France, croissance zéro ou halte à la croissance. En tout cas, il y avait déjà un questionnement sur l'impact de nos activités sur les écosystèmes et sur les ressources non renouvelables. Et c'est toute l'émergence des premiers grands mouvements écologistes dans les années 1970 et partout dans le monde. Donc nous savons que nous avons pris du retard par rapport à tous ces rapports qui nous alertaient. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que la crise n'est pas seulement écologique, elle est économique, elle est sociale, elle est géostratégique, elle est politique. Et il n'y a donc pas une convergence des crises, comme on dit parfois, comme si les crises convergeaient. Elles convergent peut-être, mais surtout, elles se potentialisent. C'est-à-dire que l'une accroît l'autre. Je préfère cette notion de potentialisation des crises qui s'enchaînent l'une à l'autre, plus que convergence des crises, parce que ça fait longtemps qu'elles convergent. Et donc, bien entendu, pour nous, c'est une difficulté extrêmement importante parce que nous sommes dans une situation sociale et politique qui est très difficile, qui est compliquée, avec une explosion des inégalités dans nos sociétés et entre les sociétés, qui est aujourd'hui vertigineuse et qui remet en cause les principes politiques auxquels nous sommes attachés, c'est-à-dire le principe démocratique, le principe d'égalité, d'égalité des droits. Et donc, évidemment, aujourd'hui, c'est peut-être le pire moment de l'histoire pour s'emparer de ces questions climatiques, de la crise de la biodiversité, de l'écroulement des écosystèmes, de l'épuisement des sols, bon, etc., des pollutions diverses et variées. Il aurait certainement été plus facile de s'en emparer dans les années 1970, où là, les sociétés étaient moins décomposées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc ça, c'est une difficulté pour nous, extrêmement importante, évidemment, parce que du fait de cette potentialisation des crises et des situations de détresse et d'urgence dans lesquelles nous sommes. Troisième difficulté aussi que j'identifie, après on pourra en débattre, il y en a beaucoup d'autres, mais pour moi c'est une difficulté, c'est que nous vivons véritablement plus... Ce n'est pas une crise que nous vivons. La crise, cela fait 40 ans que nous en parlons. C'est les années 1970, la crise. Pendant un temps, on a cru, pas nous, mais que les politiques néolibérales allaient. C'était la mondialisation heureuse, la paix, la prospérité pour l'humanité. Les politiques néolibérales ont été la réponse à la crise des années 1970. Eh bien, ce que nous vivons aujourd'hui, donc, c'est pas une crise, parce que quand on emploie le terme de crise, moi je ne dis même pas crise écologique, crise, ça signifie que le système allait bien, il est en crise, et ensuite, une fois la crise passée, il va pouvoir retrouver son équilibre, il y a un retour à l'équilibre. Or là, aussi bien sur le plan social que sur le plan écologique, et je dis bien les deux, on est face à des irréversibilités. Les irréversibilités, elles sont évidentes sur le plan écologique. Fukushima, aujourd'hui, engendre des irréversibilités. L'accident nucléaire a fait que des zones sont définitivement, à l'échelle humaine bien sûr, définitivement polluées, définitivement détruites, définitivement inhabitables, comme c'était le cas pour Tchernobyl. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas empêcher le changement climatique. Nous pouvons le freiner, nous pouvons en diminuer l'amplitude, nous avons d'ailleurs intérêt, mais nous avons déjà concentré des gaz à effet de serre dans l'atmosphère suffisamment pour que le changement climatique ait déjà enclenché. Il nous reste maintenant à le freiner et à le réduire, mais pas à le supprimer. Dans la destruction de la biodiversité, nous avons aussi des phénomènes irréversibles. On ne sait pas, même si on se croit tout puissant, on ne sait pas reproduire des espèces. On ne sait pas reproduire des écosystèmes disparus. Et je dirais, sur le plan social, nous perdons tous les jours, quasiment, ou en tout cas tous les ans, des langues, des peuples qui disparaissent, des langues qui disparaissent, et donc des parties culturelles de l'humanité qui disparaissent, des parties sociales de l'humanité qui disparaissent tous les jours. Ça, c'est de l'ordre de l'irréversible. Or, nous savons que nous avons besoin absolument de biodiversité, de sociodiversité, que c'est cela qui peut apporter la stabilité pour la vie sur la Terre. Cette sociodiversité, cette biodiversité, d'ailleurs la biodiversité ne peut vivre que s'il y a une sociodiversité. Alors que nous avons vécu et nous vivons sous le règne de la globalisation et sous la croyance, l'idée qu'il y aurait un monde unique, un modèle unique, il n'y a pas d'alternative, auquel nous devrions tous nous soumettre et qui nous ramènerait la prospérité. Et donc ce n'est pas simplement une crise, c'est un véritable effondrement d'un modèle que nous vivons aujourd'hui. C'est l'effondrement de la société industrielle. Regardons en France ce qui est en train de se passer. Au niveau des travailleurs de l'industrie, on est dans une crise industrielle extrêmement grave et comme nous ne l'avons pas anticipé, nous avons refusé d'anticiper cette crise-là, et bien aujourd'hui nous sommes devant des urgences. Et souvent, quand on est dans l'urgence, il n'y a plus de bonnes solutions. Il n'y a que des solutions moins pires les unes que les autres, mais pas réellement de bonnes solutions. Voilà pourquoi nous devons nous emparer véritablement maintenant de toutes ces questions. Et enfin, je dirais qu'une autre difficulté, là je cite un grand philosophe et poète, Paul Valéry, je le recite, c'est pas la même citation que j'avais prise dans mon livre « Le temps du monde fini ». Paul Valéry, il écrivait en 1935, là, une phrase que je trouve que nous avons à méditer. Tout ce que nous savons, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons, a fini par s'opposer à ce que nous sommes. Et c'est peut-être là la difficulté majeure que nous avons. Aujourd'hui, nous savons. Nous avons tous ces rapports. On a parlé du rapport du GIEC. Il y a des tas d'autres rapports, y compris des rapports des Nations Unies. Bon, on a parlé des négociations climat qu'il y a eu à Varsovie, qui sont une véritable catastrophe. Mais si on lit des rapports des Nations Unies sur le climat, les rapports eux-mêmes, le constat est excellent en général. Le constat est bon. Ce sont les solutions qui ne viennent pas. Et donc, là aujourd'hui, nous croulons, je peux dire, sous l'information, sous les données scientifiques. Donc, nous pouvons exercer notre raison, nous ne sommes pas dans les élucubrations. Et pourtant, nous avons du mal à agir. Et je pense que Valérie touche à quelque chose de juste, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'extérieur à ce modèle capitaliste qui s'est véritablement étalé sur toute la planète, et qui s'est étalé dans toutes nos vies, pas seulement la vie au travail, mais la vie dans nos habitations, notre consommation, etc. Il n'y a quasiment plus d'extérieur à ce monde-là globalisé. Et quand il n'y a plus d'extérieur à ce monde-là, de piliers extérieurs auxquels nous pourrions nous raccrocher, eh bien c'est extrêmement difficile de trouver un levier pour changer. Et donc le levier, nous devons le trouver à l'intérieur de nos sociétés et à l'intérieur de ces modèles-là. Ce qui est difficile parce que nous heurtons véritablement à ce que nous sommes. Nous savons toutes les contradictions que nous pouvons vivre, et notamment les contradictions qu'il peut y avoir entre des questions sociales, des questions écologiques. Et ça fait partie de ce que signifie Valérie. Alors, pour conclure cette introduction un petit peu longue, je voudrais dire que face à ce constat, aujourd'hui nous pouvons nous réjouir d'une chose. C'est que partout dans le monde, on voit émerger ce qu'on appelle des luttes antisystémiques, c'est-à-dire des luttes qui ne sont plus, et des résistances et des expériences, qui n'ont plus pour but seulement d'améliorer la situation dans le cadre du système existant, mais qui sont véritablement des pas de côté, qui induisent de nouveaux paradigmes, qui remettent en cause certains fondements majeurs du modèle dans lequel nous sommes. Et ces luttes-là, elles ne sont plus marginales. Elles ne sont plus marginales. Et c'est pour cela aussi que, bien sûr, à ATTAC, nous sommes emparés de ces sujets, ce qui ne nous empêche pas également d'être dans des combats qui sont plus des combats de résistance dans le modèle. Mais nous devons articuler justement les résistances dans le modèle et toutes celles qui déjà posent la question de la transition et font le pas de côté qui permettra, nous l'espérons, un changement de paradigme. Et on peut se réjouir du fait qu'on a un véritable investissement politique, je dis bien, de zones qui étaient longtemps ignorées, de zones qui sont à la frontière de l'écologie et du social, et qui aujourd'hui sont l'objet de luttes, d'expériences, etc. Bon, c'est toutes les luttes qu'il y a contre les aéroports, nous avons Notre-Dame-des-Landes, les gaz de schiste, sur les questions énergétiques, les lignes grande vitesse, sur les transports, dans l'agriculture. Dans l'agriculture, les agriculteurs, certains agriculteurs en tout cas, font réellement des pas de côté vers une autre agriculture, une autre manière de consommer, des liens nouveaux avec les consommateurs, etc. Et ces luttes antisystémiques nous paraissent essentielles. Parce que, espérons-nous, cela peut être des points de départ pour véritablement des points à partir desquels se cristallisent des tensions dans le modèle, à partir desquels on pourrait envisager véritablement une transition significative. Et j'en veux aussi, pour exemple, quelques événements qui se sont passés en France ou ailleurs. Je voudrais citer le cas de la Grèce, où il y a des luttes dans le nord de la Grèce contre l'exploitation de mines d'or, qui sont des luttes démocratiques exemplaires. En Roumanie, lutte contre les gaz de schiste, lutte contre l'extractivisme, contre des mines, etc. Regardons ce qui s'est passé en Turquie. Ce mouvement-là est extrêmement intéressant, le mouvement d'Istanbul. C'est-à-dire qu'à partir du refus de la destruction d'un cadre de vie des arbres, puisqu'on voulait construire un centre commercial à la place d'un parc. Ça peut paraître anodin vu la crise qu'il y a, la détresse des personnes, etc. Non, là c'est parti de un parc et la défense de ce parc, parce que le parc ça fait partie de la vie, de comment les gens ressentent leur vie aussi dans leur ville. Et bien à partir de là, ce sont des questions démocratiques qui se sont posées, de remise en cause du pouvoir. Et donc on voit Rio de Janeiro aussi. Par exemple, ce qui est absolument fantastique, inattendu, et beaucoup en Amérique latine, comment les mouvements nouveaux à Rio de Janeiro remettent en cause, par exemple, la Coupe du Monde de foot. Le foot est une institution sacrée. Bon, et bien là, du fait de la crise, du fait des choix que ça a impliqué, et bien là, on est vraiment sur ce que j'appelle des zones. Avec des zones à la frontière de l'écologique et du social. Et là, vraiment, il y a un investissement politique par des groupes, par des associations, parfois par des partis politiques, qui ne se situent pas à un niveau environnemental ou environnementaliste, mais véritablement posent la question politique à partir de l'investissement de ces zones. Et c'est tous les mouvements d'occupation, tous les mouvements de restitution, de défense des communs qu'on voit apparaître partout au niveau international. Et ça, bien entendu, pour nous, c'est un espoir, c'est un vrai sourire, c'est de la couleur dans la grisaille que nous avons autour de nous et sur lesquelles nous entendons, bien entendu, appuyer au maximum. Alors, bon, ça c'était l'introduction, mais je vous promets, tu me diras quand il me restera pas trop de temps.
Oui, tu as le temps.
J'ai le temps. Alors, je voudrais, donc, une fois après avoir planté ce décor, après je serai plus rapide, peut-être prendre à rebrousse-poil certaines croyances, et on a le débat pour ça ensuite. J'ai intitulé ma première partie « Pourquoi je pense que la crise ou l'effondrement, le dérèglement écologique est absolument central ?» Central, ça ne veut pas dire que ça élimine le reste, mais ce n'est ni périphérique, ni secondaire, ni à côté, on verra plus tard. Oui, sachant que, ce que j'ai oublié de dire dans l'introduction, c'est une grande difficulté pour nous, il peut y avoir une tentation grande, du fait de la crise sociale, de se dire « on verra tout ça plus tard, parce que la priorité, c'est de donner à manger. Bon. » Ce que je voudrais montrer, c'est qu'on ne peut pas donner à manger si on ne met pas l'effondrement écologique au centre et la nécessaire restauration des équilibres écologiques au centre. Là, c'est une illusion de croire que nous pourrons manger, et encore plus que nous pourrons manger sainement. Donc, cette première partie, donc, c'est sur la centralité vraiment du dérèglement écologique et donc la nécessité de penser la transition écologique et la démocratie en même temps. Et avant, je voudrais faire un petit retour sur les 30 Glorieuses. Pourquoi ? Parce que malgré tout, dans notre imaginaire, bien souvent, entre guillemets, progressiste, notre imaginaire d'une gauche dans toutes ses dimensions, peu importe, les 30 Glorieuses restent, je crois, un modèle de référence. Parce que, tout simplement, c'est vrai que dans nos sociétés, dans quelques sociétés, européennes en particulier, pas l'Europe de l'Est, etc., mais dans quelques sociétés européennes, on a eu pendant, c'est pas 30, hein, c'est 20, pendant cette vingtaine d'années, une prospérité économique indéniable, une croissance forte, régulière, intensive, comme il n'y avait jamais eu dans le capitalisme, jamais. Voilà pourquoi nous pensons que c'est une parenthèse plus qu'un modèle. Ça a été une parenthèse capitaliste. Mais bon, c'est devenu un modèle. Parce qu'il y a eu une augmentation du pouvoir d'achat global, y compris du pouvoir d'achat des catégories populaires, la consommation de masse et les droits sociaux. Des droits sociaux, des conquêtes sociales extrêmement importantes. Des conquêtes démocratiques, des conquêtes sociales extrêmement importantes. Et nous vivons, c'est vrai, depuis 40 ans, une régression sociale. Voilà pourquoi nous pouvons être tentés de regretter ce temps des 30 Glorieuses, ou en tout cas de penser qu'il faudrait trouver les voies pour revenir finalement au grand principe des 30 Glorieuses. Alors, ces 30 Glorieuses, je ne vais pas les analyser là, j'ai pas le temps, mais je vais donner 3 ou 4 points quand même sur lesquels elles étaient fondées pour que nous réfléchissions à la possibilité de renouveler cet exploit. D'abord, je disais, les 30 Glorieuses, ça a concerné à peu près un dixième de la population mondiale. À peine un dixième de la population mondiale qui, en 45-50, était moins nombreuse qu'aujourd'hui. C'est-à-dire les pays industriels capitalistes. En gros. Donc je disais ça a duré 20 ans, mais c'était un contexte dans lequel ceci a été possible, et on l'a totalement ignoré dans l'analyse des 30 Glorieuses, ça a été possible parce que nous avons bénéficié d'une énergie abondante, bon marché, qui s'appelle le pétrole. C'est la généralisation du pétrole. Il faut garder à l'esprit que en 1973, quand il y a eu ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier, qui n'est pas un choc, mais bon, premier choc pétrolier de 1973, après le choc, le pouvoir d'achat, le prix réel d'un baril de pétrole équivalait au prix réel d'un baril de pétrole dans les années 1920. Pour vous dire à quel point le prix en pouvoir d'achat, en volume, hein, le prix du baril de pétrole s'était effondré jusqu'aux années 1970, et 1973, c'est un rattrapage. Bon, nous avons évidemment que ça a été un choc pour nous, qui étions habitués à avoir une énergie abondante, bon marché, compensée, absolument éternelle, sans se poser de questions. Puis comme il n'y avait que nous qui étions sur ce schéma-là, on n'avait pas encore les émergents, il y en avait assez pour nous, visiblement, il n'y avait absolument aucun problème. Certains commençaient à s'inquiéter. Le fameux pic pétrolier, le fameux pic de Hubbert, hein, c'est dans les années 1950, hein, que des chercheurs américains donc ont commencé à alerter sur, attention, le pétrole est une énergie non renouvelable, ça va, hein, c'est de bon sens, et il peut s'épuiser. Et il va s'épuiser. Mais tout ceci, on était dans l'euphorie des 30 glorieuses, c'est passé par, c'est passé à la poubelle, véritablement, on n'en a pas du tout discuté. Donc, une énergie abondante, matière première, très bon marché. Ça a été une croissance, je vous disais, très forte. Jamais dans l'histoire du capitalisme, il y avait une telle croissance. En moyenne, tous les ans, c'était 5 à 6% pour l'Europe. Les États-Unis un petit peu moins. Pour la France, c'était 5 à 6% par an. Vous voyez aujourd'hui où nous en sommes, hein, et ceci pendant une vingtaine d'années. Mais cette croissance, elle a été ce qu'on appelle une croissance intensive, fondée sur les gains de productivité. Des gains de productivité qui ont augmenté à une vitesse énorme et qui ont alimenté ce qu'on appelle le productivisme. Et on se heurte aujourd'hui aux limites du productivisme. C'est-à-dire que aussi bien pour ce qui est du travail que ce qui est de la terre, de la nature, on ne peut pas continuer à pressurer, ou en tout cas, si on le fait, c'est au prix d'une détérioration à la fois du travail et de la nature. Et donc là, on a complètement sous-estimé, dans les 30 Glorieuses, les dégâts du productivisme qui étaient déjà là. Parce qu'aujourd'hui, les dérèglements que nous avons au niveau climatique, biodiversité, etc., ça n'est pas apparu il y a 20 ans, 30 ans. On voit dans toutes les courbes concernant la biodiversité, concernant les émissions de gaz à effet de serre, à quel point il y a une accélération à partir de 1947. Accélération très nette et nouvelle accélération avec la globalisation dans les années 1980. Donc là, on est face aux limites aujourd'hui de la Terre. D'autant que nous étions à ce moment-là encore dans des périodes coloniales ou néocoloniales dans lesquelles nous avions les ressources qui nous revenaient de droit, qui étaient faites même pour nous, et qu'aujourd'hui, la situation que nous avons, c'est que nous avons des pays qui restent, il y a d'autres formes de domination évidemment qui s'exercent par rapport aux pays du Sud, mais une des conséquences de la globalisation, du capitalisme, qui s'est étendue désormais à l'échelle de la planète, c'est que le modèle que nous avons promu, productiviste, dans ces années-là, aujourd'hui ce modèle, il tend à être imité par les puissances émergentes. Ce sont la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Brésil, d'autres pays d'Amérique latine qui se bâtissent sur notre modèle productiviste, sans les droits. Notre modèle productiviste des 30 Glorieuses. Et donc là, aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls à pouvoir bénéficier du gâteau qui nous a été donné, de la terre, des écosystèmes, de toutes ces ressources que nous utilisions pour certaines gratuitement et pour d'autres à des prix extrêmement bas. Nous ne sommes plus les seuls. Nous sommes, et nous prenons conscience que nous sommes véritablement dans un monde fini, aux ressources finies. Notre système économique s'affronte véritablement à une limite matérielle. C'est même plus de l'ordre de l'idéologie. C'est une limite matérielle. Ça, c'est important, je pense, à souligner. Enfin, ces 30 Glorieuses, cette conquête de droits en particulier, c'est aussi dû à des compromis qu'il y a eu entre des classes dirigeantes et des classes populaires, compromis sur des droits, sur des augmentations de salaires, etc., qui ont plusieurs raisons, mais une des raisons aussi, c'était que face à la menace et à la séduction qu'opérait encore le système soviétique, face aussi à tous les partis de gauche, en particulier le Parti communiste, qui était très important à la libération, eh bien, nos systèmes ont voulu montrer aussi, ont voulu, accrocher les populations, éviter le basculement dans un autre système, justement par l'octroi de droits, etc. Ça a été aussi, pour les classes dirigeantes, un moyen de freiner les velléités éventuelles pour s'aligner sur d'autres modèles qui, à l'époque, étaient le modèle soviétique. Donc, toutes ces choses-là, qui font partie véritablement des piliers des 30 Glorieuses, aujourd'hui, nous ne l'avons plus. Comme dit Margaret Thatcher, aujourd'hui, il n'y a plus de système soviétique ou autre, il n'y a plus d'alternative. Hein. Donc il n'y a pas d'alternative, ça veut dire qu'il y a un grand marché global qui doit amener normalement la prospérité. Il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus d'ennemis, dit-on. Et donc, ces piliers des Trente Glorieuses, aujourd'hui, n'existent plus. Et ils n'existent plus depuis un moment, puisque la crise, ce modèle qui est issu des Trente Glorieuses, on estime que l'essoufflement de ce modèle, qui était fondé sur une production de masse, une consommation de masse, ce modèle s'essouffle à partir des années 1970. Ainsi là qu'on commence à parler véritablement de crise. Année 1970, bon, il y a les chocs pétroliers, il y a la grande récession de 1974, quand même, où le PIB mythique, là, le taux de croissance du PIB est négatif, on est en véritablement plus que récession, il est négatif, il ne fait pas que diminuer, il est négatif en 74-75, et donc c'est la crise. On la croyait encore conjoncturelle, on ne s'était pas obligatoirement rendu compte, tout le monde, qu'elle était structurelle. Mais là aussi, il y a eu de nombreuses, et je vous disais tout à l'heure, il y a eu de nombreuses alertes. Et donc, face à cette crise, quelle réponse ? Cette crise des années 70 qui vraiment éclate dans les années 80, quelles sont les possibilités de réponse? Il y avait les possibilités du type néolibéral autour de « il n'y a pas d'alternative », ça a été la globalisation économique et financière, ça a été l'économie de marché généralisée, ça a été la concurrence, le libre-échange et surtout l'idée que finalement le meilleur gouvernement c'est le marché. Là, c'est véritablement le fondement des politiques néolibérales et l'abandon par les politiques de toute, comment dire, de toute velléité de s'opposer aux forces privées. Parce que, bien entendu, le politique est toujours là pour faciliter aujourd'hui. Le politique est devenu un facilitateur, finalement, d'un ordre privé qui tend à se développer à l'échelle de la planète. Et ceci, bien entendu, c'est vraiment coagulé dans les années 1980, c'est ce qu'on a appelé le néolibéralisme. Donc il y avait ça comme possibilité, ce sont des coalitions néolibérales, on le sait, qui ont pris le pouvoir, mais la réponse aussi qui a été donnée, malheureusement, je dirais, face à la crise sociale des années 1980, ça a été l'oubli des questions écologiques, quand ça n'a pas été le déni des questions écologiques. Dans les années 1970, il y a eu une vitalité incroyable, tout un tas de luttes sur la consommation, des remises en cause du productivisme, la demande de la baisse du temps de travail, autant de luttes, l'autogestion, autant de luttes qui étaient véritablement, qui ne se disaient pas obligatoirement écologistes, mais qui posaient fondamentalement la question écologique. Je voudrais citer quand même un livre extraordinaire qu'on trouve encore dans les puces, marchés aux puces, un livre de la CFDT qui n'était pas la CFDT d'aujourd'hui, quand elle était autogestionnaire, qui est, en 1977, la CFDT a produit un livre très bon qui s'appelle « Les dégâts du progrès », où c'était vraiment les dégâts du productivisme sur le travail, sur les conditions de vie. Et ça s'appelait « Les dégâts du progrès », 1977. Et donc, il y avait l'idée de la relocalisation, travailler au pays, vivre au pays, toutes ces questions-là qui, aujourd'hui, sont reprises dans tous les mouvements de la transition. Eh bien, elles étaient très, très présentes dans les années 70. Et surtout, le refus de la consommation, le refus des journées très longues et la baisse du temps de travail. Ça, c'était vraiment une revendication qui articule justement le social et l'écologique. Bien, années 80, la réponse, y compris des mouvements sociaux, ça a été essentiellement une réponse à la question sociale et pas du tout à la question écologique. La question écologique est apparue comme secondaire. Et on s'est dit, bon, on va d'abord résoudre les problèmes sociaux, et puis quand on sera au pouvoir, éventuellement, on s'occupera aussi de l'écologie parce qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Et ça, c'est un petit peu, je voulais le signaler parce que c'est un peu ce qui nous guette aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que nous avons perdu 30 ou 40 ans et que désormais, le coût de la transition écologique sera beaucoup plus élevé. Il ne faut pas se faire d'illusions. qu'il n'aurait été si nous l'avions fait en 1970. Et il sera beaucoup plus élevé en 2020 ou 2030 si nous attendons 10 ou 20 ans de plus. Donc c'est dans ce sens-là qu'il y a véritablement urgence, parce qu'il y a aussi, nous devons lutter avec des irréversibilités et cette potentialisation des crises. Alors évidemment, face à cet effondrement des écosystèmes, face à la potentialisation des crises, aujourd'hui encore, nous avons trois types de réponses. Alors, je schématise les trois types de réponses que nous avons aujourd'hui. Premier type de réponse que vous connaissez bien, c'est le salut par la croissance. C'est le discours quotidien, c'est la messe quotidienne sur les médias, c'est le salut par la croissance. Il y a l'idée que, et ça c'est, il y a des fondements économiques, si vous voulez je pourrais y revenir dans le débat, il y a en particulier la croyance, je dis croyance, même s'il y a une loi qu'on appelle une loi en économie, qui consiste à dire que plus un pays s'enrichit, donc plus il a de la croissance, plus il s'enrichit, plus il aura les moyens véritablement de verdir son économie. L'idée étant que les riches sont propres et que les pauvres sont sales. C'est quand on est riche, on a les moyens de consommer écolo, on a les moyens de produire écolo, alors que les pauvres, vraiment, ils nous polluent vraiment parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire tous les investissements qu'il faut pour produire mieux. Et donc, c'est la croissance. La solution, c'est la croissance. Parce que ça permettra l'augmentation du niveau de vie et ça permettra ainsi la prise en compte vraiment de l'écologie. Il y a l'idée là-dedans que l'écologie est un problème de riche. C'est-à-dire, il faut être riche pour se poser la question de l'écologie. En gros. Et donc, plus on a de la croissance, plus on pourra se poser les questions écologiques. Ce qu'on appelle, pour ceux qui s'intéressent, la courbe de Kuznets environnementale, qui montre, si vous voulez, que jusqu'à, enfin, qui montre, à partir d'un exemple plus que discutable sur le plan scientifique, que quand la croissance augmente, pendant un temps, les pollutions augmentent. Et puis ensuite, il y a un niveau, c'est la courbe en cloche, il y a un niveau de stabilisation, et ensuite ça diminue. Donc, il nous faut la croissance. Pour, j'ai entendu Madame Kosciusko-Morizet défendre justement cette idée-là d'une croissance absolument nécessaire pour réduire les pollutions ensuite dans un deuxième temps. Dans cette logique-là aussi, l'écologie est une question technique. C'est une question purement technique qui sera gérée par des experts. Ce n'est pas une question politique. Ce n'est pas un objet politique, l'écologie. C'est une conséquence. Les pollutions sont une conséquence regrettable d'un mode de production et de consommation qui reste fondamentalement bon. Qu'il faudra certes un petit peu amender, mais il va falloir traiter uniquement les conséquences de ce mode de production et de consommation. Et également, c'est le salut par le libre-échange. Bon, vous savez que ATTAC, avec d'autres, beaucoup d'autres, associations, syndicats, nous sommes engagés dans une lutte contre le traité, le projet de traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. De même que nous nous opposons au futur, parce qu'il n'y est pas encore fait, le traité entre le Canada et l'Union européenne. Les arguments, si vous regardez les argumentaires, aussi bien de la Commission européenne que du gouvernement français, c'est quoi ? C'est ça permettra la croissance. Donc, ce libre-échange, c'est-à-dire, et alors là, c'est la suppression des réglementations, la suppression des normes, la mise en concurrence généralisée, permettra la croissance, et ainsi avec la croissance, on pourra s'occuper des questions écologiques. Tant qu'il n'y a pas de croissance, on ne peut pas s'occuper des questions écologiques, ça coûte trop cher, il faut vraiment de la croissance très forte. Ça, c'est vraiment quand même assez dominant, et je dois dire qu'il y a un consensus des classes un peu dirigeantes sur ce schéma-là. Un certain consensus des classes gouvernementales, hein, de la classe politique gouvernementale qui gouverne, hein, à droite ou à gauche, hein, sur cette... on n'entend pas tellement de voix discordantes, hein, dans ces catégories-là. Donc c'est le salut par la croissance, le salut par le libre-échange et le salut par la technique et le marché, bien sûr. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est lié au premier, mais qui peut se décaler un petit peu, c'est tout ce qui est autour de l'économie verte. la croissance verte. Alors évidemment, l'économie verte, ça peut être extrêmement séduisant, puisqu'on se dit, bon, on va abandonner une économie brune, une économie sale, et passer à une économie verte qui serait contre, a priori. Bon, simplement, il faut regarder un peu mieux. Nous avons publié un livre à Attaque, La nature n'a pas de prix, où nous démontons un petit peu les pièges de l'économie verte. Il y a deux manières de voir l'économie verte. Il y a une manière qui s'inspire des travaux en particulier, je le recite parce que nous sommes à Attaque, nous sommes pour beaucoup d'entre nous à Attaque, ou sympathisants d'Attaque, c'est René Passé qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle L'économique et le vivant, et dans lequel il disait nous devons avoir une approche bioéconomique, c'est-à-dire nous devons considérer que le système économique est un sous-système de la biosphère. D'abord que le système économique est un sous-système des sociétés, et non pas l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'économie qui recouvre tout. Et donc, le système économique est un sous-système des sociétés, et elle-même est un sous-système de la biosphère. Et donc, c'était l'idée de reconsidérer le modèle économique en fonction de la biosphère. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'économie verte, c'est les chemins absolument inverse, c'est-à-dire c'est comment faire entrer la nature dans l'économie. C'est ce qui s'appelle l'économie verte. Évidemment, quand nous savons que nous sommes dans un monde fini, nous savons que nous sommes dans un système qui s'est essoufflé, même s'il a encore des réserves, mais c'est un système qui s'est essoufflé et qui ne peut se poursuivre que par des destructions finalement. Le moteur du modèle aujourd'hui, c'est beaucoup plus la destruction que la création. Il avance par destruction. Ce n'est pas le développement des forces productives, comme on disait dans le modèle, dans la représentation marxiste, c'est le développement des forces destructives aujourd'hui. Le capitalisme est destructeur. Il est fondamentalement destructeur. Il met en œuvre véritablement ces destructions. Eh bien, il s'agit donc de faire entrer, désormais de faire de la nature, un nouveau champ d'expansion pour le capitalisme. Face à la réduction de ces champs d'expansion, il n'y a plus de nouveaux mondes, il n'y a plus de nouveaux continents à conquérir. Il y a eu la globalisation économique et financière. Il y a encore quelques petites choses à conquérir, sans doute. Les pôles, c'est un gros enjeu. L'Arctique en particulier, parce qu'il y a du pétrole. Il y en a qui sont en train de le payer très cher en Russie. Donc il y a encore des zones à accaparer pour s'accaparer les richesses. Mais ça n'a rien à voir avec ce que ça a pu être au XIXe siècle et dans tout le début du XXe siècle. Et donc, il s'agit de retrouver un nouveau terrain de jeu, aussi bien pour les forces économiques que financières, et la nature, et ce nouveau terrain de jeu. Nouveau champ donc de valorisation, nouveau champ d'accumulation et nouveau champ d'expansion. Et cette promotion de l'économie verte est... c'est faire entrer la nature dans l'économie, dans le cycle de l'économie. Mais du coup, quand on prône l'économie verte, comme le font aujourd'hui même ceux qui, par exemple, défendent un Green New Deal, même dans un cadre de politique keynésienne de relance verte, de croissance verte, il y a l'idée de croissance verte. Eh bien, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que le fait de promouvoir l'économie verte comme solution aux grandes questions écologiques qui nous se posent, engendre une dépolitisation de l'écologie. Et c'est ce que nous avons vu véritablement lors du sommet de Rio+20. Ce sommet a été complètement colonisé par les lobbies industriels et financiers. C'est la première fois que dans le cadre de l'ONU, ils étaient aussi apparents. Évidemment, quand on dit la solution c'est l'économie verte, eh bien, qui va s'occuper de l'économie verte aujourd'hui? Ce sont les grands lobbies industriels et financiers. Et c'est pour cette raison également, de promotion de solutions économiques au changement climatique, de solutions purement techno-économiques à la perte de biodiversité ou au changement climatique, qui accélère l'effacement du politique. C'est ce qui s'est passé à Varsovie. Ces négociations climat à Varsovie, là aussi, ont été grotesques. Puisque les lobbies industriels qui étaient un petit peu masqués jusqu'ici étaient dans les tables de négociation, et pas n'importe quel lobby industriel, les lobbies de l'énergie. c'est-à-dire les plus pollueurs, les plus responsables du changement climatique, justement, qui discutaient. C'est comme si on discute des lois anti-tabac avec Philippe Maurice. On va avoir quelques problèmes. Et d'ailleurs, il y a une disposition de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que les grandes firmes qui produisent les cigarettes ne doivent pas participer aux négociations sur les questions de tabagisme, etc. Et donc nous avons pour idée de demander que ce soit faite la même chose, justement, absolument la même chose pour ce qui est des négociations climatiques, c'est-à-dire que toutes les grandes firmes transnationales qui sont responsables d'une grande partie de cette accumulation de gaz à effet de serre ne puissent pas participer à la table des négociations. Parce que là, c'est mettre vraiment le loup dans cette bergerie de gentils moutons. Donc ça, c'est ce que je voulais indiquer par là, c'est à quel point, véritablement, nous voyons que nous avons intérêt à nous emparer de cette question écologique qui tend à être totalement dépolitisée et traitée uniquement de manière technique ou de manière marchande. Et bien sûr, la troisième voie, c'est la nôtre, c'est celle que nous tentons de mettre en œuvre et dont nous parlerons, je sais, beaucoup dans le débat, c'est la transition vers des sociétés justes, démocratiques, soutenables, bon, etc. Et c'est une transition que nous souhaitons engager tout de suite. Et c'était ce que je voulais vraiment montrer ici, c'est que, à partir de ce que je viens de dire, nous ne pouvons plus considérer l'écologie, encore une fois, comme à côté. Voilà pourquoi, d'ailleurs, je n'ai pas voulu que dans le titre il y ait la transition écologique et sociale. Parce qu'on a des espèces de messes maintenant, tout le monde met écologique et sociale partout. Et que je préférais qu'on mette la transition écologique et montrer que la transition écologique, c'est une question sociale et c'est une question politique. C'est pas écologique et sociale, l'écologie est en même temps sociale et politique. Voilà. De même qu'aujourd'hui, je pense que quand nous traitons de la question sociale, nous ne pouvons plus traiter la question sociale sans immédiatement traiter aussi des questions écologiques. Nous sommes dans l'Anthropocène et toutes nos décisions d'organisation sociale ont un impact sur la biosphère, sur les écosystèmes, et nous ne pouvons plus l'ignorer. Deuxième point, comme il me reste combien de temps ?
Tu as encore le temps. D'accord ?
Ah, mais moi, je suis toujours trop long. Attendez, je regarde quand même, parce que je ne veux pas abuser. Voilà, j'ai le temps, oui. Alors, deuxième point qui, pour nous, je pense, est un levier, mais un levier qui n'est pas toujours facile à utiliser, c'est qu'il y a, en même temps, échec de la marchandisation de la nature, de la marchandisation des pollutions. Il y a échec sur lequel nous pouvons nous appuyer, mais il y a aussi poursuite de ce processus. C'est là le cynisme du modèle, c'est-à-dire qu'il peut continuer à se poursuivre tout en étant un échec absolument total du point de vue qui s'était fixé, c'est-à-dire réduire la dégradation des écosystèmes. Donc échec et poursuite de la financiarisation de la nature. Que ce soit dans les conférences internationales, que ce soit au niveau de l'Union européenne, aujourd'hui, l'essentiel qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du discours, etc., etc., ce qu'il faut lire, c'est que la priorité pour régler ces questions écologiques est donnée aux mécanismes du marché. Bien sûr, ceci est plus ou moins habillé, mais il y a l'idée que seul le marché pourra véritablement être un incitateur puissant pour résoudre la crise écologique. Ça, c'est ce qui inspire aujourd'hui toutes les négociations internationales et régionales. Et d'autant plus que nous vivons une crise des finances publiques, enfin, c'est ce qu'on appelle comme ça, une crise de la finance, tout simplement, mais en tout cas une crise des finances publiques, et qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, il n'y a plus un dollar, il n'y a plus un euro à mettre dans un pot commun européen ou transnational. Il n'y a plus d'argent pour financer véritablement des politiques publiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre le changement climatique, de lutte de transition énergétique. Il n'y a plus d'argent public, et donc c'est appel à l'initiative privée. Alors, je crois qu'il faut bien que je précise quand même, nous ne nions pas l'importance de l'initiative privée. Quand on voit l'échelle de ce que nous avons à produire aujourd'hui, l'échelle des transformations que nous avons véritablement à engager, bien entendu que nous allons avoir besoin d'entreprises qui produisent, y compris des technologies adaptées aux nouvelles contraintes concernant la biosphère, concernant la biodiversité, etc. Il ne s'agit pas de refuser l'initiative privée. Mais que signifie mettre en avant l'initiative privée ? Ça veut dire qu'elle se substitue à toutes les politiques publiques aujourd'hui. Et c'est ça qui est très grave. C'est ça qui est, je pense, véritablement une catastrophe politique au niveau international. C'est l'initiative privée qui se substitue à l'initiative politique, et ça on le voit dans toutes les négociations. Parce qu'il y a abandon des choix politiques. Je repars sur le climat, puisque nous aurons à parler quand même de 2015 en France, le Bourget, la conférence de l'ONU qui aura lieu au Bourget en 2015. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les négociations climatiques, c'est que la plupart des grands États industriels, États-Unis, Australie, Japon, Canada, etc., et dernièrement, ralliement de l'Union européenne, qui a abandonné toute prétention d'être leader, elle a été leader pendant longtemps. Aujourd'hui, ces pays industriels développés refusent tout principe d'accord contraignant. Refusent l'idée qu'il pourrait y avoir un accord international contraignant pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Bien. Quand on est un État et qu'on décide dans le cadre des Nations Unies qu'on refuse tout accord contraignant, ça veut dire qu'on refuse tout accord politique. Non pas que la politique, c'est la contrainte, le terme contraignant n'est peut-être pas le bon terme qu'il faut utiliser, mais cela veut dire qu'il faut mettre en place des normes, qu'il faut mettre en place des réglementations que nous acceptons très bien dans d'autres domaines. Je me bats souvent contre l'idée d'une écologie punitive. Mais ça veut dire quoi ? Oui, moi, quand on me demande de m'arrêter au feu rouge, je m'arrête. Je ne le vis pas comme une punition. Je m'arrête parce que si je continue, je risque quand même de mettre la vie de personnes, et la mienne d'ailleurs aussi, la vie de personnes en danger, tout simplement. Et quand j'étudie le code de la route, j'étudie pas ça comme le code punitif, mais comme un code qui me permet de vivre en collectivité et de circuler en collectivité. Je suis pas seul sur les routes. Elles sont pas à moi, les routes. Il y a un code de la route, je le respecte. Bon, eh bien, il peut y avoir des codes écologiques pour les entreprises, pour les particuliers aussi, qui ne sont pas de l'ordre de la punition. On nous a mis en tête que la réglementation écologique, c'est la punition. Non, ce sont des règles de vie commune, de vie en société, que nous avons à décider collectivement, à décider démocratiquement, et nous avons intérêt à le faire vite, sinon elles nous seront imposées ensuite de manière très bureaucratique et d'en haut. Donc nous avons à choisir entre nous des règles que nous voulons. Mais ce sont des règles de vie, tout simplement. Alors qu'aujourd'hui, on est en train de nous imposer des règles de mort, en nous imposant des pollutions maximum, des accaparements de terre, une nourriture qui tue plus que véritablement elle nourrit. Ce sont des règles morbides. Donc nous avons à réaffirmer la vie, la puissance de la vie, la puissance du vivant. Et donc c'est la puissance des règles, de la réglementation. Or, c'est le refus de toute idée de réglementation, qu'on appelle accord contraignant. Et ça, c'est le rôle des États industriels. Et aujourd'hui, ce sont certains États du Sud, pas tous, pas la Chine, pas l'Inde, pas la Brésil, les pays les plus pauvres du Sud, qui demandent un accord contraignant pour 2015. Et notre grande bataille, ça va être d'obtenir en 2015 un accord contraignant, et en particulier contraignant de manière différenciée, selon les responsabilités historiques des différents pays. Aujourd'hui, par exemple, l'Union européenne, par habitant, nous émettons à peu près 7 à 8 tonnes de carbone par an, par habitant. L'Éthiopie émet 0, ou le Bangladesh, 0,01 tonnes de carbone par habitant. On ne va pas demander les mêmes efforts à l'Éthiopie et à l'Union européenne, et encore moins ou encore plus par rapport aux États-Unis d'Amérique qui sont à 12 ou 13 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par habitant. Donc, un accord contraignant et différencié, bien entendu, selon les responsabilités historiques. C'est ça notre combat. Mais ça s'appelle faire de la politique. C'est ça la politique. C'est se mettre d'accord autour d'une table avec des éléments de raison qui nous sont donnés aujourd'hui par les scientifiques, qui nous donnent des éléments qui ne sont pas idéologiques, qui eux ne sont pas politiques, c'est les données de la science, qui nous disent il nous faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de minimum 80% d'ici 2050 et donc 60% d'ici 2030. Et donc ensuite, ça c'est les scientifiques qui nous disent ça, et ensuite les politiques se mettent autour d'une table et avec ces arguments de raison décide de comment on s'organise pour rendre la vie juste et solidaire et possible à partir de ces connaissances-là. Ça, c'est de la politique. Ça, c'est de l'écologie politique. Alors que là, ce qui se dessine, c'est chaque pays fait ce qu'il veut. Promotion des marchés, les marchés du carbone, dont nous savons, puisque nous l'avons expérimenté dans l'Union européenne, je ne vais pas trop le développer, nous savons que ce marché est un échec total. Le prix de la tonne de carbone aujourd'hui sur le marché du carbone est tombé. Alors, il est remonté un petit peu. Il est tombé à 3 euros la tonne de carbone. Il est actuellement à 5 ou 6 euros la tonne de carbone. Cela veut dire que c'est un échec absolument total, puisqu'on sait que pour que vraiment les entreprises qui ont à payer cette tonne de carbone, ces crédits d'émission qu'elles achètent sur le marché du carbone, pour que ce soit vraiment dissuasif pour elles, concernant leurs émissions, alors il y a plusieurs chiffres qui sont donnés. La fourchette, c'est entre 30 euros la tonne de carbone et plutôt 60 euros la tonne de carbone. Elle est actuellement à 5 euros, donc les entreprises préfèrent payer leur crédit d'émission 5 euros la tonne sur le marché du carbone et surtout continuer à produire comme avant et continuer à émettre tranquillement sans aucun problème. Donc c'est un échec ce marché du carbone, reconnu. Il y a eu de multiples réunions au niveau de l'Union européenne concernant ce marché du carbone. Eh bien, le marché du carbone n'est pas remis en cause. On essaie aujourd'hui de faire remonter le prix sur le marché du carbone. Là, il y a intervention. Là, on intervient sur le marché sans problème. On va essayer de geler des crédits qu'il y a sur le marché, si vous voulez, après, de manière technique. Je pourrais vous l'expliquer dans le débat. Il y a trop de crédits de carbone qui ont été distribués aux entreprises, puisqu'ils ont été distribués gratuitement. Ces droits d'émission, ils ont été distribués gratuitement aux entreprises en très grand nombre et les entreprises peuvent les échanger sur le marché du carbone. La loi de l'offre et de la demande fait que quand il y a beaucoup d'offres et peu de demandes, eh bien, les prix s'effondrent. C'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, on essaie de retirer du marché des crédits qu'on a mis en excédent pour essayer de faire remonter le prix. Ce marché est un échec et pourtant, on poursuit. De même l'Union européenne, et nous aurons à nous battre là-dessus. Et c'est un débat politique. Nous aurons à nous battre, l'Union européenne est en train de discuter de combien va-t-on diminuer les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle 2030. Bien. À l'échelle 2020, nous nous étions donné comme objectif une diminution de 20% par rapport à 1990. Le GIEC préconisait 40% pour l'Europe. Nous sommes fixés 20%. Nous allons atteindre les 20%. Pour plusieurs raisons, nous allons atteindre cet engagement-là. Pour plusieurs raisons, d'abord la crise, qui fait qu'il y a eu un ralentissement des émissions, tout simplement parce qu'il y a une baisse de la production, non pas parce que les entreprises sont devenues plus vertueuses, mais par l'effet volume, tout simplement. Mais c'est dû aussi à un autre fait, c'est que... Depuis 1990, nous avons intégré les pays de l'Est européen, la Russie, les pays de l'Est, la Pologne, etc., qui étaient des pays très très fortement émetteurs, avec des installations absolument catastrophiques. Ces installations, pour la plupart, en Tchéquie, Slovaquie, etc., ont fait faillite. Ces espèces de grandes concentrations industrielles qui émettaient des gaz à effet de serre de façon délirante. Et donc, on a une chute considérable des émissions dans ces pays-là, parce qu'il y a eu l'abandon de toutes ces grandes entreprises extrêmement polluantes. Donc 20%, il n'y a aucun problème, sans faire pratiquement beaucoup d'efforts, on va y arriver en 2020. Et l'Union européenne aujourd'hui propose pour 2030 30%, pas plus. Le GIEC est formel, pour arriver à moins 80% en 2050, il nous faut moins 60% en 2030. Or, les moins 80% en 2050, c'est de façon à ne pas dépasser les plus 2 degrés de réchauffement, puisque c'est la barre qu'a donnée le GIEC dans les négociations internationales, parce qu'il considère qu'au-dessus de 2 degrés, il y a des phénomènes d'emballement climatique qui font que la situation risque de ne plus être gérable du fait des phénomènes d'emballement climatique, réchauffement des océans, libération du carbone, libération du permafrost, du méthane, bon, etc., etc. Donc là, l'Union européenne, nous avons à nous battre vraiment pour que l'Union européenne reprenne les préconisations des scientifiques. C'est un combat aussi politique, parce que nous savons que la crise climatique, aujourd'hui, elle ne s'applique pas, elle s'applique partout dans le monde, bien sûr, elle ne fait pas le truc. Mais nous savons que ce sont les catégories sociales les plus pauvres, les plus précarisées, qui, et les pays évidemment les plus pauvres et les plus précaires, qui sont en première ligne concernant tous ces changements climatiques et concernant les effets des changements climatiques. Autre échec, c'est donc tout ce traitement des pollutions par le marché. C'est la même chose pour la biodiversité. Vous savez qu'il y a des marchés biodiversité qui sont en train de se mettre en place sur absolument le même principe, qui est un principe de compensation. Je peux l'expliquer avec Notre-Dame-des-Landes. Je crois que j'en dis deux mots donc, par rapport à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, vous le savez, serait construit sur une des plus grandes zones humides que nous avons encore en France. Ces zones humides, quelle est leur particularité? C'est qu'elles sont une réserve extraordinaire de biodiversité, aussi bien végétale qu'animale, une très grande réserve de biodiversité. Et donc les zones humides sont protégées. Elles sont protégées depuis, il y a plusieurs lois qui permettent la protection de la biodiversité, et en particulier une loi de 1976. Vous voyez que la conscience, elle y était. Nous avons en France une loi de 1976 qui oblige les grandes entreprises, les grands aménageurs, de compenser les pertes en biodiversité qui sont dues à cet aménagement de ces zones-là. Mais, et vous allez comprendre ce qui s'est passé depuis 1976. En 1976, la loi préconise 3 choses. Elle dit, par rapport à un grand projet qui serait sur des zones humides, etc., il faut d'abord voir si on peut éviter le projet. Première étape, tenter d'éviter le projet. Première étape extrêmement importante. Si le projet ne peut pas être évité, comment réduire l'impact du projet? Deuxième étape. Et c'est une fois qu'on a discuté de éviter, c'est-à-dire éventuellement on abandonne le projet, une fois qu'on a réduit le projet pour réduire l'impact sur la biodiversité, une fois qu'on a fait tout ça, on doit compenser. C'est-à-dire que l'État qui fait, c'était essentiellement pour l'État, qui fait des grands aménagements publics et qui détruit des zones, doit compenser en recréant ailleurs la biodiversité qui a été détruite à un endroit. Mais dans la loi de 1976, la compensation, elle est vraiment en bout à l'arrivée. Et elle est là uniquement pour gérer les restes, si vous voulez, ce qui n'a pas pu être évité. Bon, c'est une question qui est compliquée. Par exemple, on veut construire une université, on veut construire un hôpital, je ne parle pas d'aéroport, on veut construire des choses comme ça. Bon, bien sûr qu'on va être obligé de calculer l'impact. C'est tout à fait légitime. Et dans ce cadre-là, la compensation se faisait, si vous voulez, encore une fois, par rapport à ce qui vraiment... Au reste, aujourd'hui, avec les phénomènes de marchandisation et surtout avec le phénomène de désengagement de l'État, de partenariat public-privé, aujourd'hui, on n'est plus dans éviter, réduire, compenser, on est dans uniquement compenser. Et donc, sur Notre-Dame-des-Landes, on ne se pose pas la question de éviter, réduire, immédiatement si on compense. Et donc, aujourd'hui, Vinci est obligé de compenser la perte de biodiversité qui a été, qui serait occasionnée, parce qu'il ne sera pas construit, nous l'espérons, qui serait occasionnée par l'aéroport, devrait compenser. Et donc, Vinci va devoir acheter des crédits biodiversité. Va devoir, si vous voulez, recréer ou bien recréer une zone humide. Donc, vous voyez ce que ça veut dire ? Avec toutes les espèces qu'il y a dans la zone humide, ou bien acheter des crédits biodiversité. Et il y a des banques aujourd'hui qui sont des banques de compensation. Et en particulier une banque publique qui est la Caisse des dépôts et compensations, la Caisse des dépôts et consignations, pardon, qui a créé une filiale biodiversité et qui aujourd'hui est en train de restaurer toute une zone en Camargue, dans la plaine de la Croix, une zone qui était polluée. Et donc la Caisse des dépôts a acheté les terres, restaure cette zone avec des financements, si vous voulez, et vend des crédits biodiversité. Donc Vinci va pouvoir acheter à cette banque de compensation, aux États-Unis il y en a des milliers de banques de compensation, va pouvoir acheter des crédits biodiversité qui lui permettront de compenser les pertes qu'il y a à Notre-Dame-des-Landes. Bon, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Notre-Dame-des-Landes. Mais bon, dans le sud-ouest où je suis, nous avons aussi une zone humide. Il y en a très peu qui restent. C'est la seule qui reste du sud-ouest. Une zone humide qui est dans le Tarn. C'était une région dans laquelle, une très très belle région, elle est une grande zone humide. Et c'était une région dans laquelle les agriculteurs s'étaient lancés, quand on les avait incités à cela, à la production de maïs. En dehors de la zone humide, évidemment. Le maïs, vous le savez, vraiment consomme énormément d'eau. Comme c'est par ailleurs une zone qui, en dehors de la zone humide, qui manquait d'eau, les agriculteurs, spontanément et intelligemment, ont abandonné la culture du maïs. Et donc, les élus locaux, etc., ne trouvent rien d'autre comme idée géniale, alors que les agriculteurs ont abandonné pour beaucoup la culture du maïs, de faire un barrage, de noyer la zone humide pour pouvoir faire de l'irrigation et replanter du maïs. Voilà. Et là, les travaux ont commencé. Il y a une résistance qui est de l'ordre, qui est vraiment une résistance très forte avec occupation, etc. Alors, on est content parce que la première étude d'impact qu'ils avaient fait sur cette zone-là, ils avaient sous-estimé complètement la biodiversité qu'il y a. Il y a 198 espèces rares sur cette zone. Donc nous sommes ravis. Et en particulier, il y a une libellule qui est le seul endroit où on la trouve en France. Donc on appelle ça la résistance des libellules. Hein, face au tank là, du progrès, hein, la résistance des libellules. Et il y a une libellule, on la trouve nulle part ailleurs. Et donc, si vous voulez, pour sauver la libellule, il faut embarquer. Cette libellule, elle vit parce qu'il y a une plante particulière. Hein, il y a toujours, contrairement à ce qu'on nous a enseigné souvent, dans la nature, il n'y a pas que de la concurrence. Il y a de la coopération dans la nature. Hein, il devrait y avoir coopération dans les sociétés. Nous avons construit nos sociétés sur le modèle d'une loi naturelle qui est fausse. La loi de la jungle, soi-disant, la concurrence entre les espèces, une lecture complètement déviationniste de Darwin. Il y a de la coopération dans la nature. Et cette libellule, elle a besoin d'une plante particulière. Bien. Donc il faut transporter la plante aussi. Mais la plante, elle ne vit là que parce qu'il y a un sol particulier. Donc il faut trimballer le sol en plus. Bon, voilà. Donc là, on sait que toutes ces choses-là, évidemment, ça fait de l'activité économique, ça fait du marché, ça fait de la financiarisation de la nature, mais ça ne résout pas la question de l'extinction de la biodiversité. C'est pour ça que je vous disais, il y a échec. De même que le marché du carbone européen n'a pas permis la réduction significative des émissions de gaz à effet de serre, ça a été pour d'autres raisons que ça a diminué sur le sol européen. Et donc, c'est vraiment la promotion de tout ce qui est de l'ordre du marché, l'idée de compensation. Et là, c'est le déni du fait que, surtout en matière de biodiversité, on ne peut pas, des écosystèmes, on ne peut pas isoler un élément. C'est un tissu de relations, les écosystèmes, et isoler un élément pour le valoriser, l'échanger sur un marché, lui donner un prix, est une aberration intellectuelle. Mais il n'empêche, qu'on fait comme si on pouvait le faire. On fait comme si on pouvait le faire. Et donc, c'est toute cette idée que finalement, les contraintes, la réglementation, ce n'est pas efficace. Et qu'il vaut mieux la déréglementation. Et dans l'accord, justement, prévu entre Canada et Union européenne, et entre États-Unis et Union européenne, il y a un volet très important sur les ressources naturelles, sur les ressources énergétiques et sur les ressources naturelles en général. Volet très important de suppression des normes, suppression des réglementations, qui gênent les investissements des firmes transnationales. Dernier point sur lequel je veux dire un mot, troisième point donc, qui est la situation dans laquelle nous sommes, c'est l'accélération véritablement de la technique. Aujourd'hui, on voit se développer véritablement une écologie technicienne plutôt qu'une écologie politique, avec l'idée que finalement, c'est la technique qui va nous sortir, la science, la technique, qui vont nous sortir du pas dans lequel nous sommes. On trouve ça vraiment dans l'économie verte, c'est vraiment l'idée qu'il y a. Alors, loin de nous, au contraire, de penser que nous n'avons pas besoin de science, que nous n'avons pas besoin de technique. Au contraire, nous avons besoin de poursuivre, de mieux connaître tous ces écosystèmes dans lesquels nous vivons, de connaître le système Terre. Nous avons un besoin urgent. Nous avons, sur certains sujets, une ignorance absolument énorme. Donc nous avons besoin de recherche, nous avons besoin de techniques nouvelles aujourd'hui qui remplacent les techniques anciennes pour justement la transition énergétique. François Kell a beaucoup travaillé Gide en particulier. Pour mettre en œuvre la transition énergétique, nous avons besoin de la technique, de techniques comme des moyens, mais pas comme finalité. Alors que là aussi, c'est comme le marché, c'est comme l'économie, la technique est en train de devenir une finalité. Et une finalité salvatrice. C'est le nouveau Dieu qui va sauver l'humanité, nouvelle technoscience qui va permettre de sauver l'humanité. Nous avons besoin de nouvelles techniques. Et nous avons en particulier besoin de ce qu'on appelle des techniques low-tech au lieu du high-tech. Vous savez que bien souvent, on pense en termes de high-tech, c'est-à-dire le nec plus ultra de la technique, et bien souvent, on a le sentiment que ce nec plus ultra de la technique, il permet de se libérer des questions matérielles, puisque aujourd'hui, nous sommes limités par la matérialité de l'économie. L'économie, on découvre qu'il y a une base matérielle, et que... Bon, donc on essaie encore aujourd'hui de dématérialiser l'économie. Ça a été le choix européen qui est un choix catastrophique, avec l'économie des services, l'économie de la connaissance, etc., etc. Donc on a désindustrialisé totalement l'Europe et la France au nom de la dématérialisation par les services et la connaissance. Mais sauf que la production des services, la production de la connaissance, c'est pas du tout une production dématérialisée. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour Google aujourd'hui. Google est un consommateur d'énergie extraordinaire. Nous avons besoin de beaucoup d'énergie pour produire et de matière pour produire des ordinateurs portables. Et bien souvent des matières qui ne sont pas recyclables ou très difficilement recyclables. Et donc on a des contraintes matérielles. Et donc l'idée encore qui continue, c'est plus on a de contraintes matérielles, plus on va se libérer de la matière avec du high-tech. Le plus virtuel possible, le terme virtuel. Il y aurait un monde virtuel qui serait dégagé du monde matériel. C'est toute l'idéologie de la finance aussi. La finance, ce serait un monde qui se reproduirait tout seul, qui ferait de la richesse tout seul. La monnaie aurait le pouvoir magique de se reproduire grâce à la finance. L'économie matérielle, c'est vraiment lourd. Ça pollue en plus et tout, alors que le monde de la finance, c'est le monde du réseau, on plane au-dessus des sociétés, on ne pollue pas, on est extrêmement mobile, extrêmement rentable. Eh bien, le high-tech, c'est ça, généralement. Et donc, bien souvent, dans les milieux d'écologie politique, nous parlons de low-tech. Nous avons besoin aujourd'hui de techniques qui ne sont pas obligatoirement du high-tech, mais des techniques appropriables aussi. Des techniques décentralisées, des techniques qui permettent de relocaliser les sociétés, des techniques démocratiques que nous puissions nous approprier. Pas la technique nucléaire, pas les gaz de schiste, bien sûr, avec la fracturation hydraulique. Ça, ce sont des techniques dites high-tech, si on veut, et qui sont profondément destructrices. Donc, retrouver des techniques low-tech. Low-tech, ça ne veut pas dire de bas étage. Regardons aujourd'hui ce qui se passe dans l'énergie, mais aussi dans l'agriculture. Ce qu'on appelle l'agroécologie. C'est un très bon exemple, l'agroécologie. L'agroécologie, c'est vraiment une agriculture qui mélange à la fois des savoirs d'observation, parce que nous sommes des humains qui ressentons les choses, qui observons. On n'est pas des êtres abstraits, uniquement branchés. Donc on est des êtres qui savons encore un petit peu observer le monde et la nature. Donc des savoirs concrets, des savoirs empiriques accumulés depuis des générations et des savoirs extrêmement sophistiqués de la biologie, de la connaissance des espèces, de la compatibilité des espèces, de la capacité de collaboration des espèces, toutes ces choses-là qui sont complexes aussi. Et donc là, on a véritablement un mélange possible de choses appropriées déjà par des peuples, mais avec lesquels on peut travailler pour encore engendrer, disons, des possibilités nouvelles en termes d'agriculture. Et ça, c'est passionnant. C'est là qu'en plus il peut renaître un espoir, parce que c'est passionnant. Et je crois que par rapport à des générations nouvelles, d'ailleurs souvent les jeunes sont plus intéressés que des générations, parce qu'il y a un nouveau champ d'expérimentation. Un champ qui est intéressant, dans lequel on peut à la fois mobiliser de l'intellect, mobiliser de la matière grise, mobiliser du savoir-faire concret pour reconstruire un monde. C'est quand même une idée qui reste extrêmement passionnante. Mais au lieu de ça, que nous propose-t-on aujourd'hui et contre lesquels on doit se battre? Et nous nous battrons en 2015, puisque ça figure malheureusement dans le rapport du GIEC. Aujourd'hui, ce qui est envisagé face à la crise écologique, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. C'est l'idée que, et certains scientifiques, c'est la difficulté que nous allons avoir, certains scientifiques aujourd'hui, du GIEC en particulier, sont favorables à cela, et l'idée que c'est trop tard. Et que, c'est pas trop tard, mais qu'ils ne font plus confiance aux politiques pour prendre les décisions. Et donc ils disent, on va être obligé, certains sont tout à fait favorables, d'autres disent, on va être obligé d'utiliser des grandes solutions techniques pour éviter l'emballement climatique. Parce que ça, l'emballement climatique, ça on ne sait pas le maîtriser du tout. Donc il faut se résoudre à utiliser des techniques de modification de la planète. Modification de la planète, il y a plusieurs techniques de modification de la planète. Les deux qui sont citées dans le rapport du GIEC, c'est le dernier paragraphe du rapport qui a été transmis pour les gouvernants. C'est la première fois que dans un rapport du GIEC, on parle de géo-ingénierie parce que il y a eu un moratoire dans le cadre des Nations Unies à la Convention sur la diversité biologique. En 2009, il y a eu un moratoire signé par l'ensemble des pays sur la non-expérimentation concernant la géo-ingénierie. Aujourd'hui, c'est interdit, c'était ce type d'expérience. Les deux qui sont cités, c'est la possibilité d'ensemencer les océans avec, en particulier, je simplifie, de la limaille de fer, c'est-à-dire des produits qui vont permettre aux planctons de capter davantage de carbone qui est émis. Déjà, le plancton capte beaucoup de carbone. Et avec l'idée qu'ensuite, donc, il capte beaucoup de carbone et que ce carbone ira se déposer au fond des océans. Et ainsi, libérera du carbone de l'atmosphère et empêchera un réchauffement trop grand. Ça, c'est la première technique qui est relativement au point. La deuxième est utilisable. Ça veut dire que les océans deviennent un outil pour diminuer la température sur la Terre. C'est plus un endroit où on pêche, où on se baigne, où oui, parce que quand même, on ne connaît pas du tout pour l'instant, c'est signalé dans le rapport du GIEC, l'impact sur la faune, la flore marine, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Mais comme on pense toujours, ça c'est vraiment de la pensée occidentale, par morceaux, de manière fractionnée et non pas de manière globale, pour les écosystèmes, ça pose un problème. Deuxième technique, c'est de projeter dans l'atmosphère des particules de soufre, en fait, qui ont pour effet de faire une espèce de nuage, qui aurait pour effet de faire un nuage au-dessous de la Terre, et ce sont des particules qui réfléchissent le rayonnement solaire et qui refroidiraient l'atmosphère. Bon. Ça aussi, c'est une technique qui est pas très compliquée, qui n'est pas au point complètement, mais qui n'est pas loin d'être au point.
Bon. Là, encore une fois, dans le rapport du GIEC, il faut être très précis. Il cite ces deux techniques, tout en disant que pour l'instant, on ne maîtrise pas les conséquences, etc. Mais malgré tout, le fait que ce soit mentionné tend à légitimer malgré tout cette façon de voir. Bon, et après, évidemment, c'est toutes les plantes transgéniques, etc., etc., adaptées au changement climatique, adaptées à la perte de biodiversité, etc. Et c'est même ce qu'on appelle, hein, je conclurai là-dessus, ce qu'on appelle le post-humanisme. C'est-à-dire l'idée qu'il faut améliorer la planète pour la rendre compatible avec le changement climatique. Mais il ne faut pas améliorer seulement la planète, il faut améliorer l'humanité. Et l'améliorer, ce n'est pas du tout, parce que c'est souvent ce qu'on me dit, nous sommes déjà des espèces de... Nous avons déjà enclenché un processus d'amélioration de notre espèce. Si vous voulez, quand nous portons des lunettes, hein, c'est vrai que c'est une espèce de prothèse technique qui nous permet d'améliorer notre vue. Donc le terme d'amélioration, il est complexe parce que bien sûr qu'il est tout à fait légitime, hein, que nous voulions nous améliorer, hein, l'humanité améliorée. Le terme est très très ambigu. Mais en fait, il s'agit d'augmenter la performance. C'est pas simplement de l'amélioration, c'est de l'augmentation de la performance. Alors c'est vrai que quand je mets les lunettes, j'augmente la performance de mes yeux. Mais là, dans ce qu'on appelle le post-humanisme et toutes ces théories qui traînent aujourd'hui un peu partout quand même, hein, ce ne sont plus des théories marginales, il s'agit pas simplement de permettre de rajouter quelques prothèses techniques pour que nous puissions mieux nous débrouiller, il s'agit de modifier la nature humaine. La modifier globalement et fondamentalement. Et notamment avec les histoires de cerveau augmenté, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée est la suivante. Nous serions dépassés par les problèmes que nous avons à résoudre. Et donc, l'humanité telle qu'elle est, elle n'est plus capable de résoudre les problèmes qu'elle a elle-même créés. Et donc, il est nécessaire non seulement de modifier la planète, mais de modifier l'humanité pour la rendre capable de résoudre les problèmes qu'elle a créés. Alors, nous n'en sommes pas là. Mais quand nous voyons comment, par exemple, toutes les idées néolibérales, elles sont nées dans les années 1930, elles ont mis 50 ans pour éclore. Et pendant 40 ans, c'était des espèces de taupes, hein, 30 ans. Personne n'en entendait vraiment parler, c'est des petits groupes, années 40, 50, 60. Là où ça a vraiment éclos, 70, 80, regardez après, comme ça s'est étendu. Donc ce sont des théories qui ne sont plus du tout marginales, plus du tout, qui ont énormément de financement public aujourd'hui, sur toutes les thèses transhumanistes, post-humanistes, etc., avec des firmes comme Google, qui sont vraiment la transmission de ces thèses, où les dirigeants de Google sont complètement acquis à ces thèses, hein, d'une humanité pratiquement qui aurait conquis l'immortalité. C'est plus du tout un truc de fou, bidon, dans un coin, non. Il y a des financements publics là-dessus. Hein, sur le progrès, c'est la conquête de l'immortalité. Impossibilité de clonage, bon bref. Donc, c'est plus de la science-fiction. Alors, c'est pas là demain matin. Sachons quand même que ça œuvre dans nos sociétés et que c'est pour cette raison-là que nous avons vraiment à nous saisir, hein, puisque ATTAC, c'est une association d'aide aux citoyens. J'aime pas trop le terme aide, hein, c'est pas d'aide aux citoyens. C'est une association.
Action citoyenne.
C'était d'aide au début. Hein.
Ouais. Action citoyenne.
Ouais, action citoyenne, on est d'accord. Eh bien, nous devons nous emparer de ces sujets et faire que l'écologie soit une écologie politique, une écologie sociale, une écologie politique, et non pas une écologie de marché, et non pas une écologie technicienne. Parce que là, c'est la démocratie. C'est même l'humanisme, au sens premier du terme, qui aujourd'hui est menacé. J'ai terminé, je vous remercie, j'ai été un peu... Merci, Olivier.
Alors, c'est à vous de jouer. Normalement, il y aura...